chers frères et sœurs et chers amis. Aujourd'hui, c'est notre 34e étude concernant la prière. Nous allons voir ensemble 6 exemples que nous devons prier tout simplement. Oui, en effet, toutes les conditions mentionnées dans la Bible constituent des encouragements à la prière. Toutes sont accomplies en le demandant. Voulez-vous obtenir quelque chose de Dieu? Eh bien, priez tout simplement. Le moyen d'obtenir une chose, c'est de le demander. Certains passages des Saintes Écritures nous donnent des promesses particulières pour ceux qui demandent dans la foi. D'autres spécifient si nous demandons selon sa volonté. Il nous est dit encore que nos prières seront exaucées si nous prions dans le nom de Jésus. Et encore, si deux d'entre vous s'accordent, la persévérance dans la prière nous est également recommandée. Mais ce sont là des éléments complémentaires, des promesses plutôt que des limitations, contribuant à nous faciliter la prière plutôt que de la compliquer. Ils viennent se greffer sur la promesse générale que nous pouvons obtenir ce que nous demandons dans la prière. Premièrement, les promesses de Dieu signifient bien ce qu'elles affirment. Dans 1 Matthieu, chapitre 7, versets 7 à 8, il nous est montré que notre Seigneur est toujours parfaitement droit et exact dans chacune de ses déclarations. Il veut donc bien dire ce qu'il dit en affirmant que quiconque demande reçoit et que celui qui cherche trouve, car celui qui frappe, il sera ouvert. Et la seule limitation à cette promesse réside en celui qui demande. Le sens littéral du grec exprime l'idée de continuation. Ça veut dire celui qui persiste à demander, à chercher, à frapper. Si même nous n'avions dans notre Bible aucune autre promesse semblable, ce verset devrait nous suffire. Car il est absolument vrai, digne de notre confiance, sans aucune réserve. C'est un grand tort que de fouiller dans la Bible pour découvrir un passage qui limite ou qui contredise celui qui nous occupe. Il est donc vrai, chers frères et sœurs, que l'incrédulité est bien notre péché dominant à tous. Nous autres prédicateurs, nous sommes tombés dans cette habitude fâcheuse de feuilleter notre Bible pour y trouver des passages qui contredisent et qui annulent les grandes promesses de Dieu. Ainsi, les hommes se rendent coupables de sonder les Écritures dans le but d'y trouver des contradictions, de faire servir un passage à la destruction d'un autre. Et il est vrai que la Bible nous présente bien des expressions variées pour décrire le plan divin du salut. Par exemple, dans 1 Jean chapitre 1, verset 12, il s'agit de « recevoir Christ ». Dans l'Évangile de Jean, toujours l'Évangile de Jean, chapitre 6, verset 37, il nous est dit de « venir à lui ». Nous avons donc « recevoir Christ »,« venir à lui ». Comme dans Romains chapitre 10, verset 9 et 10, l'accent est mis sur « confesser son saint nom ». Et dans Jean 3, verset 16, comme dans d'innombrables autres passages, le salut est conditionné par la foi au Fils de Dieu, offert à quiconque croit en lui, tout à fait simplement. Mais la synthèse de ces différents versets on revient à dire que quiconque se confie au Sauveur pour être pardonné sera reçu immédiatement et mis en possession d'un plein salut. Ces différentes promesses n'impliquent aucunement différents moyens d'être sauvés, ni même différents pas à franchir vers le salut. Le salut ne s'obtient pas par des processus compliqués et des exigences extrêmes. Non, non, le salut consiste en un pas unique vers Jésus-Christ, et si le pauvre pécheur, avec son entendement obscurci, ne parvient pas à le saisir d'une certaine manière, Dieu le lui explique d'une autre manière. Mais tout pécheur peut parvenir au salut en se confiant dans l'une, on peut dire l'une quelconque, de toutes ces promesses divines à ce sujet-là. Et quand, d'un cœur droit, il reçoit Christ, il confesse son Saint-Nom, il se repent de ses péchés et il se confie en son Sauveur. Et Dieu, à ce moment-là, l'accepte, croyez-moi, les bras ouverts pour l'amour de Christ et lui pardonne tous ses péchés. Les promesses complémentaires sont donc là, non pour rendre le chemin plus difficile, mais bien au contraire, pour nous faciliter l'accès à notre Dieu Seigneur, notre merveilleux Sauveur. Deuxièmement, l'exaucement à nos prières n'est pas dû à des conditions supplémentaires, mais aux promesses ajoutées. En effet, il en est exactement de même dans le domaine de la prière. Voyez-vous, Dieu nous a donné de très nombreuses promesses et dans des termes variés. Il veut nous faire comprendre à quel point il est disposé à exaucer nos prières. Mais certains prédicateurs se plaisent à découvrir dans la Bible toutes les conditions à remplir et en reviennent à dire: notre Dieu est un juge au cœur dur qui, au fond, ne désire pas du tout exaucer nos requêtes, comme s'il ne voudrait pas le faire. Et il ne vous répondra finalement que si vous avez soin de remplir rigoureusement toutes les conditions imposées. J'ai du reste découvert dans la Bible bien des barrières qui se dressent entre nous et Dieu. Si toutefois vous parvenez à surmonter chacune des murailles que constituent les conditions mentionnées, eh bien vous arriverez enfin à l'exaucement de vos prières. Certains théologiens donnent l'impression qu'il nous faut ouvrir à grand-peine une demi-douzaine de portes verrouillées avant de parvenir à l'exaucement d'une seule de nos prières. Et s'il nous manque une seule clé pour ouvrir l'une de ces portes, eh bien nous ne pouvons rien attendre de Dieu. Mais cela est coupable et honteux de prêcher de sorte, car le fait est que les soi-disant conditions sont plutôt des promesses et que tout chrétien qui croit dans son cœur peut les voir s'accomplir en sa faveur. Voici une illustration quelque peu enfantine, d'accord, mais qui vous aidera peut-être à comprendre. À la porte d'une ferme, un visiteur s'étonna de voir un trou tout en bas, et puis trois autres trous nettement plus petits. Il en demanda l'explication et le fermier lui dit: « Eh bien, c'est pour laisser sortir le chat et ses trois petits. » Mais un seul trou ne suffirait-il pas ? Poursuivit le visiteur très étonné. « Oh non, 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 il faut que chaque chaton ait aussi son trou particulier. » Eh bien, voyez-vous, il en est ainsi, chers amis, des promesses de Dieu pour ses enfants. Une promesse qui s'applique à l'état d'âme et aux circonstances d'un chrétien n'éveillera aucun écho dans le cœur d'un autre. Il aura besoin d'une promesse différente, s'adaptant à ses besoins particuliers. Pendant une période d'intense combat spirituel, je me récitais constamment la promesse de Saint Jean chapitre 14, verset 13, et je fus assuré que demandant au nom de Jésus-Christ, je serai exaucé une seule fois, ne parvenant pas à saisir la victoire tout seul. Eh bien, je me souviens de la promesse, si deux d'entre vous s'accordent. Saint Matthieu 18, verset 19. Eh bien, il est dit plus loin, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Je répète, si deux d'entre vous s'accordent, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Aucune promesse séparée ne peut exprimer complètement les promesses ou les compassions infinies de notre Père Céleste. Sa bienveillance, sa bienveillante volonté, voyez-vous, c'est d'exaucer les désirs de ses enfants. Donc, il nous faut pour cela l'ensemble de toutes les précieuses promesses qui nous sont données dans sa sainte parole, lesquelles doivent servir à nous encourager dans la foi. Troisièmement, demander, c'est remplir vraiment toutes les conditions spécifiques de la prière. En méditant toutes ces conditions particulières qui sont relatives à la prière, eh bien, vous verrez que demander en est l'accomplissement, qu'elles ne sont pas autant de barrières entre le croyant et Dieu, mais bien plutôt autant de portes ouvertes qui lui donnent accès à son trône de grâce. Dieu a tellement à cœur que nous venions à lui librement avec tous nos besoins. Il nous faut donc demander par la foi. La foi est la condition mentionnée le plus souvent dans les Saintes Écritures en relation avec la prière. Souvenons-nous encore des merveilleuses promesses de notre Seigneur et Sauveur, telles que l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 9, verset 29, qui nous dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Et au chapitre 17, verset 20, je vous le dis, en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne, etc., mais rien ne vous serait donc impossible. Et un peu plus loin, au chapitre 21, verset 22, tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Et Saint Marc, au chapitre 9, verset 23, nous dit « Tout est possible à celui qui ne croit pas ». Non, ce n'est pas dit ainsi. « Tout est possible à celui qui croit ». Gloire à Dieu. Chaque chrétien devrait prendre la peine d'approfondir ses promesses et de se les approprier, car il est bien clair que la foi peut obtenir de Dieu tout ce qu'il tient en réserve pour nous. Mais n'oublions pas que la foi ici-bas, elle est toujours une chose relative. Si vous tirez une ligne ayant à une extrémité le mot « incrédulité absolue » et à l'autre bout « certitude absolue ». Tout point intermédiaire le long de cette ligne pourra représenter un certain degré de foi. On parle aisément d'une parfaite foi. Mais en réalité, nous ne pouvons atteindre ici-bas cette perfection dans la foi. Car dès que vous parvenez à une certitude absolue, là il s'agit de connaissance et non plus de foi. La foi humaine est toujours une mixture d'incrédulité et de croyance, et il est fort possible de posséder les deux simultanément, comme ce père du jeune démoniaque qui disait à Jésus-Christ « Je crois ». Donc, viens au secours de mon incrédulité. Et cet homme au cœur partagé, entre la foi et le doute, il a vu cependant sa prière exaucée et son fils totalement délivré. Si nous devions expurger de notre foi toute parcelle d'incrédulité, elle deviendrait une certitude et ce ne serait plus la foi. Quand nous arriverons au ciel, par exemple, et ceci en possession de nos corps glorifiés, nous n'aurons plus à exercer la foi pour le salut. Ce sera la parfaite connaissance en ce jour-là. De même, j'exerce la foi en un chèque qu'on me remet jusqu'au moment où la somme équivalente m'est payée par la banque. Je pouvais croire et je pouvais espérer que le donateur avait des fonds suffisants dans cette banque. Mais à présent, je le sais, et je n'ai plus besoin d'exercer la foi en sa solvabilité. Au cours d'un entretien avec mes camarades, l'un d'eux dit un jour « Si vous avez le moindre doute dans le cœur quand vous priez, vous feriez mieux de cesser de prier, car Dieu n'exaucera jamais aucune prière s'il existe la moindre des doutes au fond de votre cœur. » Cette pensée me causa alors un certain trouble et une réelle souffrance, car je savais bien que ma foi n'était pas parfaite et qu'à son point culminant même, elle n'était pas exempte de doute. Mais j'appris par la suite que mon jeune collègue était grandement, il s'était vraiment trompé, car Dieu exauce nos prières, et ceci non pas en rapport avec nos doutes toujours possibles, mais selon notre foi, aussi petite soit-elle. Or, on peut fort bien avoir des doutes et exercer la foi en même temps, comme nous l'avons vu. Un exemple très encourageant nous est donné au chapitre 12 des Actes des Apôtres, où nous voyons un groupe de disciples au cœur ardent, passant toute la nuit en prière en faveur de l'apôtre Pierre, qui était en prison et qui devait être exécuté le lendemain. Nous pouvons imaginer avec quelle ferveur ces chrétiens plaidaient avec Dieu pour leurs chers frères bien-aimés, encore sous le coup du meurtre de Jacques, et le suppliant de faire sortir Pierre de ce sombre cachot. Cependant, tout en priant, ils avaient le cœur lourd et oppressé, car cela semblait absolument impossible ce qu'ils demandaient là, car 16 soldats gardaient l'entrée de la cellule, ce n'est pas rien. Et l'apôtre Pierre était lié de chaînes à l'intérieur avec deux autres soldats. Mais Dieu a entendu néanmoins leurs supplications et les exauça. Il a envoyé son ange pour briser les chaînes, ouvrir les portes Et l'apôtre, comme dans un rêve, se retrouva tout à coup dans une rue de la ville. Il se souvient alors de l'assemblée réunie dans la maison de Marie et il s'y rendit pour leur faire part de sa merveilleuse délivrance. Il frappa à la porte et cela à coups répétés. Mais ces chrétiens étaient bien trop absorbés dans leur intercession pour aller voir qui c'était vraiment et ils ont donc envoyé Rhode, la jeune servante. Et quand elle entendit la voix familière de l'apôtre, oubliant même d'ouvrir la porte, tellement qu'elle était étonnée et ça paraissait incroyable, elle rentra en courant pour annoncer que l'apôtre Pierre était derrière la porte. Mais, excusez-moi, alors, ils ont dit, mais tu radotes, tu es complètement folle, n'est-ce pas? Et ils ont pas voulu le croire. Ils ont refusé de croire à ce très rapide exaucement de leur prière. Et comme, croyez-moi, elle insistait que c'était bel et bien lui, ils dirent, « Oh, ça doit être son ange », pensant peut-être qu'il avait été tué et que c'était son esprit qui frappait à la porte. Et l'apôtre Pierre frappait toujours, inlassablement. Et quand enfin ils lui ont ouvert, il nous est dit qu'ils en furent tout étonnés. Aussi, voyez-vous, chers amis, je me suis souvent mis à rire en lisant cet épisode-là, tellement qu'elle est humaine, ça nous ressemble tellement. Priez toute une nuit pour cette délivrance. Et cela avec la foi qui obtient une réponse de Dieu, et cependant douter quand même quand l'exaucement est là. Mais qui oserait les blâmer? En tout cas pas moi. Ils avaient quand même une foi ardente, ils avaient la foi de cœur brisé qui s'approche au Seigneur jusqu'à l'exaucement. Oh oui, chers amis, la foi peut obtenir tout ce que Dieu a pour nous. Et si même la vôtre vous paraît plus minime encore que le grain de sénévé, suffisant pour remuer les montagnes, eh bien continuez cependant de prier, car celui qui prie sincèrement possède sans nul doute une certaine mesure de foi, sinon il ne prierait pas du tout. Et cela nous est rendu clair dans Romains, au chapitre 10, verset 13, où il est dit « Car quiconque invoquera le saint nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Est-ce que invoquer le nom du Seigneur et croire en lui sont synonymes dans les Écritures saintes? Certainement, puisque le verset suivant, il nous dit « Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ?» Nul ne saurait invoquer Dieu à moins de croire à son existence, ni ne lui adresser une requête quelconque, à moins de croire que ce Dieu répond vraiment à la prière. Donc, invoquer le saint nom du Seigneur correspond bien à croire en lui. Il est bien clair, en effet, que ceux qui demandent d'un cœur droit et sincère montrent ainsi qu'ils ont une certaine foi, sinon ils ne demanderaient pas. Ils sont donc autorisés à s'approprier la promesse. Si Dieu vous donne, n'est-ce pas, d'une foi, qui, si Dieu vous accorde une foi vivante et vigoureuse, eh bien, réjouissez-vous et utilisez cette foi dans la prière, car, chers amis, ne l'oublions pas, demander et faire preuve de foi. Je répète, demander, c'est de faire preuve de foi. Et si votre foi est encore bien faible, comment pourriez-vous mieux la développer qu'en tombant tout simplement à genoux et en vous attendant à Dieu dans la prière, humblement? Voyez-vous, si vous commencez à prier avec peu de foi et obtenez certains exaucements, là, votre foi en sera fortifiée, c'est logique. À mesure que vous mettez Dieu à l'épreuve, vous grandissez dans la foi en sa fidélité et vous découvrirez ce qui peut faire obstacle à la vie de prière et vous jouirez d'une plus grande liberté pour invoquer le saint nom de votre Père Céleste. Persévérez donc dans la prière d'un cœur humble, d'un cœur soumis à la volonté divine, tel est le meilleur moyen de se fortifier dans la foi. Demande, cher ami, selon sa volonté. Nous trouvons en effet dans la première épître de saint Jean, au chapitre 5, versets 14 et 15, cette condition d'exaucement. Demande selon sa volonté. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Voilà donc encore une merveilleuse promesse. Mais notons bien que Dieu parle ici de savoir et même, il dit, d'exercer la foi. Il dit simplement de savoir sans trop appuyer sur le besoin d'avoir une foi forte, simplement de savoir dans son esprit, dans son cœur. Ça, c'est déjà l'essentiel. Et tout chrétien qui prie dans la certitude d'être dans la volonté de Dieu, demander précisément ce que Dieu veut faire pour lui ou pour elle, peut être totalement assuré que sa prière est entendue et qu'il ou elle possède déjà l'exaucement. Toutefois, ne vous laissez pas décourager à la pensée que cette certitude ne se trouve pas en vous, car il n'est pas écrit que ceux qui ne possèdent pas cette absolue certitude ne seront jamais exaucés. Ce n'est pas écrit ainsi. Demander selon la volonté du Seigneur, c'est la requête parfaite, et cela va sans dire qu'une chose qu'on demande en dehors de cette volonté divine ne saurait nous être accordée. Mais si vous priez pour une chose qui ne peut être contraire, je dis bien contraire à la volonté de Dieu, alors attendez-vous à la recevoir de sa part, car notre Dieu prend plaisir à nous donner tout ce qu'il juge nécessaire et juste et même légitime. Et quand les enfants s'adressent à leurs parents, eh bien, ils tiennent compte de leurs propres désirs, de leurs besoins réels ou imaginaires, plus encore de leur connaissance des pensées et des ressources de leurs parents. Ainsi, nous aussi, faibles enfants du Père, nous avons le droit de venir à lui dans notre ignorance, notre indignité même et notre indigence pour demander à notre Dieu tout ce dont nous avons besoin. Nous qui avons été adoptés dans la famille de Dieu, ayant été rachetés au prix infini du sang de son Fils bien-aimé, comment pourrions-nous croire qu'il refuse de répondre à nos prières? Si donc, après avoir sondé honnêtement nos mobiles devant lui et cherché à suivre la direction de son Esprit Saint et de sa parole, eh bien, on peut dire, si nous ne sommes pas repris, c'est ça, si nous ne sommes pas du tout repris par l'Esprit Saint à l'égard de telle ou telle requête qui nous vient de notre cœur, eh bien, nous avons, croyez-moi, le droit, tout à fait le droit, de venir avec une hardiesse, avec beaucoup de hardiesse, au trône de la grâce. N'oublions jamais cela. Et nous savons bien que n'importe qui peut venir à Dieu librement pour obtenir le salut, puisqu'il nous dit lui-même qu'il veut sauver tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ. Mais dans Romains chapitre 8, verset 32, nous voyons que lui, qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc, le pécheur qui est venu à la croix pour être sauvé, je dis bien, peut encore y revenir librement. Et ceci pour tous ses besoins ultérieurs. Ainsi, chers amis, ainsi, le passage de la première épître de Saint Jean, chapitre 5, verset 14, n'est pas destiné seulement à mettre des limitations à notre prière. Si vous connaissez la volonté de Dieu, eh bien vous pourrez prier avec d'autant plus de hardiesse. Et si vous ne la connaissez encore qu'imparfaitement, et que vous savez cependant qu'il vous aime, qu'il a donné son Fils bien-aimé pour le rachat de votre âme, et qu'il est disposé à vous accorder librement toutes choses avec lui, souvenons-nous aussi que le bon moyen d'apprendre à connaître cette volonté, c'est tout simplement de prier. Tandis que nous nous attendons à Dieu, eh bien, il nous aidera à modifier nos prières si elles ne sont pas selon sa volonté. Selon Romains, chapitre 8, verset 26, nous savons que le Saint-Esprit, même le Saint-Esprit, viendra en aide à notre infirmité et nous révélera les choses qui sont selon la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit viendra à notre aide. Et comme le Saint-Esprit intercède pour nous selon la volonté de Dieu, eh bien le meilleur moyen de parvenir à cette connaissance est d'avoir nos prières corrigées. Elles vont être corrigées par l'Esprit Saint s'il le faut pour les conformer à la pensée divine. C'est encore toujours de prier. Priez donc tout simplement. Et si vous venez à lui d'un cœur honnête et droit, il vous conduira à prier selon la volonté et à remplir toutes les conditions nécessaires à l'exaucement. Il est dit, tout ce que vous demanderez en mon saint nom, cela n'implique pas que nous devions, en quelque sorte, apposer à chacune de nos prières cette étiquette au nom de Jésus-Christ. Répéter une telle formule, d'ailleurs, ne prouverait aucunement que nos prières soient conformes à sa pensée. Dans les prières des hommes de la Bible, nous ne trouvons pas une seule fois cette fameuse formule consacrée, car le fait est que Dieu le sait bien sans que nous le lui répétons sans cesse. Demander dans le nom de Jésus-Christ signifie que nous savons que notre prière lui est agréable et qu'elle est faite pour sa gloire et pour son honneur. Cette instruction est donc pour nous et non pour Dieu. C'est à nous de nous sonder pour savoir si vraiment, vraiment, chacune de nos prières est bien faite en son Saint-Nom, c'est-à-dire selon sa pensée. Si donc nous demandons une chose que nous savons très bien être conforme au désir du Seigneur Jésus, alors nous pouvons être assurés de l'obtenir. Il y en a qui se demandent, le chrétien ne peut-il pas prier pour ses besoins personnels, du fait qu'il se sait être un enfant de Dieu et qu'il a un libre accès au cœur de son Père céleste. Voyez-vous, quand une petite fille vient vers son papa parce qu'elle a faim, devra-t-elle l'aborder avec un petit discours préliminaire disant « Papa, tu auras beaucoup plus d'honneur et plus de succès dans ta prédication si tu ne me laisses pas mourir de faim. Donc, c'est en ton propre intérêt que je te demande maintenant un bol de lait. » Non, certes, tout cela serait bien superflu. Mon enfant, il sait que je l'aime et que ses besoins sont pour moi une obligation. Je veux qu'elle m'aime en retour. Oui, qu'elle se confie en moi et qu'elle cherche à me faire plaisir. Et c'est donc son plein droit de s'adresser avec confiance à son papa pour tout ce qui la concerne. Il est donc évident que prier pour le salut d'une âme ou bien pour obtenir notre pain quotidien, cela nous place dans deux domaines différents. En ce qui concerne le salut des perdus, le Seigneur Jésus-Christ l'a beaucoup plus à cœur que nous. Ça, vous pouvez me croire. Et nous devrions donc chercher à le voir glorifié en pareille occasion, plus encore qu'en ce qui touche à nos besoins personnels. Cependant, en un certain sens, tout ce qui nous concerne, nous les enfants du Père, affecte aussi notre Sauveur et peut donc contribuer à glorifier son Saint-Nom. N'est-il pas écrit en effet que notre position auprès du Père est identique à la sienne, ayant été fait héritier de Dieu et co-héritier de Christ, lui qui n'a pas honte de nous appeler frères, sœurs, ainsi, tel il, Jésus-Christ, et tel nous sommes aussi dans ce monde. Nous n'avons aucun mérite par nous-mêmes, bien entendu, mais ayant été rendus agréables dans le bien-aimé, Dieu se plaît à nous combler de ses dons, non selon notre justice, mais selon sa grâce et selon sa miséricorde envers ses enfants. Quatrièmement, il nous est dit dans Saint Matthieu, au chapitre 18, verset 19, Si Dieu, c'est plutôt si deux, le chiffre deux, si deux d'entre vous peuvent s'accorder dans la prière, elle leur sera accordée. Vous avez bien compris, si deux d'entre vous s'accordent dans la prière, elle leur sera accordée. Ce verset ne représente pas toutefois une nouvelle condition à remplir pour être exaucé, mais plutôt une promesse de plus, un encouragement à la prière en commun. Quand deux croyants s'unissent pour prier et qu'ils se mettent d'accord quant à l'objet de leur requête, la parole de Dieu affirme qu'ils seront exaucés. En pareil cas, chacun se trouvera fortifié par la foi de l'autre. Et si tous les deux sont également attentifs à la direction de l'Esprit Saint, ils parviendront à une beaucoup plus grande assurance, tandis que l'Esprit Saint les assistera pour prier dans un but particulier. Si l'un des deux a compris une certaine promesse dans les Saintes Écritures, et que son frère ou sa sœur lui dise « Ah, moi aussi, j'ai maintenant compris cela ainsi, et je crois que la parole de Dieu nous autorise à prier de cette manière-là. » Il en résultera donc une plus grande hardiesse et bien entendu une plus grande assurance chez ces deux qui s'unissent ainsi. D'autre part, ils pourront exercer une discipline carrément mutuelle. Ils peuvent se reprendre s'il y a lieu, si l'un ou l'autre présentait une requête égoïste, eh bien, l'autre le saurait, il lui sera montré par l'Esprit Saint. Il nous est donc ordonné de confesser nos péchés les uns aux autres, et bien entendu de prier les uns pour les autres, et ceci afin, par exemple, d'être guéri d'une maladie. Ainsi, quand les cœurs sont vraiment fondus en un par le Saint-Esprit et dirigés par la parole de Dieu, ils pourront recevoir du Seigneur les choses qu'ils s'accordent à lui demander. Si donc vous avez la possibilité de vous joindre à un frère ou une sœur pour présenter ensemble vos requêtes à Dieu, ne manquez jamais de le faire. Si vous pouvez avoir l'assurance d'être vraiment dans l'unité de l'Esprit Saint, mais si cela, par exemple, ne vous est pas donné, soyez tout à fait sûr que Dieu ne l'exige pas absolument pour pouvoir exaucer vos prières. Ce n'est pas une condition qu'il exige absolument et qu'il vous impose, mais plutôt une facilité qu'il vous offre dans votre vie de prière. N'oublions pas que les exaucements les plus extraordinaires qui vous sont rapportés dans les Saintes Écritures ont été accordés à la prière d'un homme absolument tout seul. Par exemple, rappelez-vous Moïse. Il était seul sur la montagne, plaidant avec Dieu pour qu'il épargne Israël après son terrible péché d'idolâtrie. Lisez-le dans Exode chapitre 32, depuis le verset 9 jusqu'au verset 14. Donc, au commandement de Josué, il était, sachez-le, absolument tout seul. Eh bien, qu'est-ce qu'il s'est passé au commandement de Josué qui a prié tout seul? Le soleil et la lune se sont arrêtés dans le ciel, selon Josué chapitre 10 verset 13. Le soleil et la lune se sont arrêtés dans le ciel, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans Josué chapitre 10 verset 13. Quant au roi Ézéchias, il pria tout à fait tout seul, seul dans sa chambre, pour obtenir la guérison, alors même que par Ésaïe, Dieu lui avait annoncé sa mort prochaine. Ésaïe 38, verset 5. Nous avons le grand Élie, ce grand solitaire du mont Carmel. Il a prié la prière décisive qui devait mettre fin au jugement de la sécheresse dans 1 roi, chapitre 17. Et quand l'apôtre Pierre a prié pour la résurrection carrément de Dorcas, il a fait sortir tout le monde et il se trouva tout seul devant son Dieu. Acte des apôtres, chapitre 19, verset 40. Et nous pourrions citer bien d'autres cas d'exaucement totalement individuel dans la Sainte Bible. Si donc nous avons l'occasion de nous unir à d'autres croyants, ne manquons jamais de le faire, certes, mais si même nous sommes réduits totalement à la solitude par circonstance, sachons bien que toutes les ressources du ciel sont quand même à notre disposition, pourvu que nous prions d'un cœur humble. Et sinon, alors, toutes les conditions de Dieu se trouveront remplies si nous avons un cœur sincère et humble. Du reste, nous ne sommes pas tout à fait tout seuls. Le Saint-Esprit est avec nous et il représente bien une cinquantaine de personnes. Cinquièmement, nous arrivons maintenant à la persévérance dans la prière. La prière persévérante est celle qui obtient une réponse favorable. Ça, selon la promesse de Dieu. Nous en avons l'illustration dans la parabole du juge inique, rappelez-vous, qui finit par céder aux instances de la veuve de peur qu'elle ne lui casse la tête. Et le Seigneur ajoute, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ? Et tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Saint Luc chapitre 18, verset 7. Combien de précieuses promesses sont donc données à ceux qui s'attendent à l'Éternel ? Il nous est dit qu'ils ne seront point confus, qu'ils renouvelleront leurs forces et qu'ils hériteront de la terre, etc. Et s'attendre à Dieu implique donc sans nul doute la persévérance dans la prière. Ainsi, tous les cas dans le Saint-Livre où des croyants jeûnèrent et prièrent constituent autant de promesses que si nous faisons comme eux, eh bien, nous ne manquerons pas du tout d'être exaucés. Il n'y a pas de limite de temps en ce qui concerne la prière. Il arrive parfois qu'un seul cri de détresse soit exaucé à l'instant même, alors que certains ont dû s'attendre à Dieu pendant des années avant d'obtenir la réponse désirée. Mais, dans chacun de ces cas, la promesse demeure absolument immuable. Demandez et l'on vous donnera, dans le sens de persister à demander, de persister à chercher et de persister à frapper. Je répète parce que c'est très important de ne jamais l'oublier. Demandez et l'on vous donnera, dans le sens de persister à demander, de persister à chercher et de persister à frapper. Enseigner que nous devons être persévérants dans la prière, c'est donc enseigner la vérité absolue. Et sixièmement, voyons, avant de terminer cette étude, quels sont les obstacles à la prière. Est-ce qu'en priant, nous pouvons écarter du chemin ces obstacles et permettre à Dieu de nous exaucer? Sans aucun doute, oui, la prière faite d'un cœur droit et honnête permettra à Dieu de nous reprendre et de corriger ce qui ne va pas dans nos prières. Il nous est dit dans la parole sainte que de fausses relations entre conjoints peuvent aussi faire obstacle à la prière. C'est écrit dans la première épître de Pierre, chapitre 3, versets 1 à 17. Le refus de nous réconcilier avec nos frères et sœurs, de pardonner les offenses, car tout péché toléré dans notre vie, tout interdit non confessé et abandonné, eh bien, cela constitue une barrière entre Dieu et notre âme. Notez Ésaïe, chapitre 59, versets 1 et 2. Notez également, parce que ça peut vous rendre service, le psaume 66, verset 18. Et pourquoi pas aussi la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 12. Donc, il est bien clair que tout motif impur, tout péché caché, tout interdit dans notre vie, dans ma vie, est une entrave à l'exaucement de nos prières, de ma prière. Et en pareil cas, que devons-nous faire? La réponse est encore et toujours, prier, oui, prier. Il y a dans la prière sincère, absolument sincère, un élément correctif. Il y a là une force de redressement éliminant totalement les obstacles à l'exaucement. Quiconque se tourne vers Dieu d'un cœur droit et honnête est déjà dans le chemin pour sortir de ses difficultés. S'il le suit fidèlement dans l'obéissance, il sera conduit en pleine lumière et elle retrouvera bientôt une douce communion avec son Dieu. Cela nous est rendu bien clair dans l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ d'après Saint Matthieu chapitre 5, versets 23 et 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère ou ta sœur a quelque chose contre toi, alors laisse-la ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère ou ta sœur et puis reviens présenter ton offrande. Avez-vous remarqué ce détail très important? Et que là, tu te souviennes. Et que là, tu te souviennes. Quel est le lieu où vos péchés vous seront remis en mémoire? Où Dieu vous rendra conscient des obstacles à vos prières? C'est précisément dans le lieu de la prière elle-même. Si vous voulez que Dieu vous montre ce qui ne va pas dans votre vie, eh bien, mettez-vous à prier. Essayez de vous approcher de lui. Et c'est précisément là, dans ce lieu de la rencontre avec votre Dieu, qu'il pourra vous révéler ce qui fait obstacle à la bénédiction et ce qui attriste le Saint-Esprit. Nulle part au monde, notre conscience ne peut être réveillée comme dans le sanctuaire de la rencontre avec Dieu. Combien de fois n'en ai-je pas moi-même fait l'expérience? Je ne me rendais absolument pas compte de ce qui pouvait l'attrister, attrister Dieu dans ma conduite, jusqu'au moment où je me mettais à prier. Et alors là, Dieu m'a révélé bien des fois, ceci par l'Esprit Saint, ce qui faisait obstacle à la bénédiction. Ainsi, si vous voulez savoir ce qu'il y a et ce qui est pas bon, ce qui se dresse entre votre âme et Dieu, alors mettez-vous simplement à prier et déversez votre cœur devant lui. Demandez-lui tout ce dont vous avez besoin. Soyez honnête avec Dieu et il sera honnête avec vous. S'il existe en vous certaines choses qui bloquent le chemin du Saint-Esprit, ne croyez-vous pas qu'il se chargera de vous les faire connaître ? Absolument, vous pouvez en être certain. Quel endroit plus favorable pourriez-vous trouver pour opérer les redressements nécessaires que le sanctuaire secret de la prière ? Il n'y a rien de plus merveilleux que le sanctuaire secret de la prière. Croyez-vous que c'est au théâtre que vous irez pour obtenir la victoire sur vos convoitises charnelles ? Ou croyez-vous que ce sera au festin de noces pour vous guérir de votre gourmandise ? Ou encore que ce sera dans une maison de jeu pour vous délivrer de la passion de l'argent ? Serez-vous affranchi du péché, de la colère, en cherchant des disputes avec votre frère ou votre sœur? Absolument pas. Le remède suprême à tout ce qui fait obstacle à votre vie, à ma vie de prière, se trouve dans la prière elle-même. Allez donc vous tenir devant le Seigneur. Tenez-vous devant le Seigneur et ouvrez simplement votre cœur à la lumière pénétrante du Saint-Esprit. Et là, Dieu mettra le doigt sur la plaie de votre cœur. Et si vous êtes honnête et droit dans votre désir de le trouver et de faire ce qui lui est agréable, alors vous hériterez de la bénédiction. Une prière hâtive, trop hâtive, pressée, n'obtiendra guère de résultats. Si vous êtes pressé de courir de droite à gauche et l'on pourra continuer avec les formules consacrées, rendre grâce à table, en vitesse et en public, sans que rien ne se passe. Mais le chrétien sérieux, qui passera une partie de la nuit, par exemple, s'il le faut, s'il fait cela dans la présence de son Dieu, ou même une journée de jeûne et de prière, il ou elle ne manquera jamais de se voir éclairé sur tous les points névralgiques, sur tout ce qui dans sa vie a pu attrister son Dieu. Avec le secours du Saint-Esprit, il ou elle pourra alors les confesser, les juger et en être totalement affranchi définitivement. Oh oui, c'est absolument merveilleux comme la prière, celle qui découle d'un cœur droit, bien entendu, d'un cœur humble qui est soumis et rempli de l'amour divin, peut triompher absolument de tous les obstacles et même guérir tous les maux de notre pauvre petite vie chrétienne. Peut-être devrez-vous parfois laisser là votre offrande et aller d'abord vous réconcilier avec votre frère ou votre sœur avant de poursuivre votre oraison. Ou bien, comme Zachée, faire le vœu de rendre ce que vous avez acquis injustement. Mais c'est toujours dans la prière que toutes ces questions trouveront leur règlement. N'attendez donc pas d'avoir remporté toutes les victoires triomphantes, mais vous triompherez, croyez-moi, de tous les obstacles avant même de vous mettre à prier. Venez aujourd'hui, nous est-il dit, tel que vous êtes, et priez tout simplement. Comparez, oui, tout cela sérieusement avec les textes que vous venez d'entendre et attendez-vous à Dieu pour qu'il corrige, qu'il complète et qu'il affermisse vos prières et qu'il augmente votre foi et qu'il puisse rendre en tout point tout, absolument tout ce qui est en vous, conforme à sa sainte volonté. Chers amis, nous terminerons maintenant ensemble, si vous le voulez bien, par la prière. Vous savez que vous pouvez réécouter, c'est l'avantage de ces messages sur CD. Autrefois, je les faisais sur cassette. Eh bien, vous pouvez les réécouter pour approfondir, pour encore recevoir par-ci, par-là, une petite chose qui n'a pas été bien comprise. C'est ce que je fais aussi en lisant et relisant certains textes de la Bible. Prions. Seigneur, tu es le Verbe divin. Toi qui sors du sein de ton Père éternel, qui est né pour secourir le monde lorsque les temps sont révolus, éclaire maintenant nos âmes, enflamme-les de ton amour. Notre cœur, laissant ce qui passe, s'emplira d'un bonheur céleste. Voici qu'une voix claire crie, s'attaquant à toutes les ombres, « Enfuyez-vous bien loin, Jésus-Christ brille du haut des cieux, vite debout, âme en sommeil, ne reste plus gisant à terre, car déjà brille l'astre nouveau qui doit enlever toute faute, puissance, honneur, louange et gloire à Dieu le Père, à Dieu le Fils, au Saint-Esprit consolateur, et ceci dans toute la suite des siècles. Amen. Et chers amis, merci surtout pour tout l'intérêt que vous portez à ces études. Et soyez bénis et à bientôt à nouveau. Au revoir, très chers amis.